Solidarité et esprit d'équipe, ce sont les deux moteurs de Force Douce. Cette association belge vient de réaliser un joli exploit, permettre à 4 jeunes diabétiques de faire la traversée des Açores jusqu'à Nieuport en Belgique. Un sujet de Pascal Marcalgi.
À la limite, tu peux même l'enlever du moment où tu tiens le bateau. Nico, tu tiens bien à l'avant. Et toi, tu tiens le côté. Ça marche. Donc voilà.
Philippe rentre dans un bateau, moi je rentre dans un autre bateau un peu plus loin. On installe la couchette, comme la soirée avait été fortement arrosée. À un moment, je me dis, bon, avant de me mettre dans mon sac de couchage, je vais aller aux toilettes, quoi. Parce qu'après, plus question de sortir, hein. J'ai plus le courage. Je sors du bateau, je sais pas pourquoi, mais je vais du côté opposé où je suis rentré, où là, il n'y avait pas de ponton, il n'y avait rien. Donc j'ai enjambé le bastingage, et puis à ce moment-là, je me suis rendu compte qu'il n'y avait plus rien. Et plouf! 4h du matin dans l'eau, avec les clés de voiture, avec l'antivol, avec tout, enfin... Comme quoi, 4h du matin, c'est comme ça qu'on peut, hein. Je veux dire, j'ai dessoulé très vite, là. Je suis vite remonté sur le ponton, finalement, voilà, je suis toujours là.
Philippe, c'est Philippe Pirard, Pépé donc, qui naît sur Terre, l'autre pied souvent en mer.
Le début de Philippe avec les jeunes s'appelait « Les passagers du vent ». Ils avaient obtenu, il y a maintenant certainement une vingtaine d'années, l'autorisation de Bourgeon, qui avait fait une série d'albums intitulés « Les passagers du vent », d'utiliser ce nom. Et la vocation de cette association était déjà d'encadrer des jeunes, de favoriser leur retour et les insérer à nouveau dans la vie, dans le quotidien, après une chute, que ce soit pour des raisons de santé ou bien éventuellement des jeunes qui avaient été placés en maison de rééducation ou des enfants du juge.
Au pays de la BD, même Force Douce n'y échappe pas. Tels les Dupont, il y a Fabrice et Fabrice.
Nieuport est le deuxième plus grand port de la côte atlantique de l'Europe.
Lui, c'est le Fabrice version loup de mer, connu ici comme le loup blanc. Il répare tous les bateaux des plaisanciers. Il faut être très gentil avec lui.
Donc il y a la Rochelle qui est plus grand que nous. À Nieuport, il y a 3 marinas. Donc il y a le KYCN où on est, qui est le Koninklijk Yacht Club Nieuport, donc le club nautique royal de Nieuport. Il y a le VVW qui est la plus grande des 3 marinas, qui est le Vlaamse Vereniging voor Watersport, qui est une entité flamande. Et alors, il y a le US Calum, le centre nautique de l'armée de l'air, qui est dans le même bassin que le VVW.
L'autre Fabrice est électronicien dans un secteur à la mode. Disons qu'il est rayonnant.
Donc, on dit, voilà les gars, on prépare la nourriture, la boisson, et on part sur Dunkerque. En fait, Dunkerque, c'est la porte à côté. Hein. Mais je veux dire, quand tu fais ça pour la première fois, il y a de la navigation, parce que tu ne peux pas aller en ligne droite. Il faut vraiment la suivre des bouées. On ouvre la partie à Dunkerque, enfin, tout va bien. Et le lendemain, ben, rebelote, on part de là, on part sur Calais, puisqu'il faut sortir de la passe, enfin sur Gravelines plutôt. Et puis, les conditions météo étaient bonnes, hop, on a continué. Et à un moment donné, bon, on était trop loin pour revenir, quoi. Donc, Ramsgate. Là, ils étaient surpris et heureux en même temps. Ceci dit, là, c'était les premières fois, vraiment, la longue navigation. Et là, on a vu à un moment donné, bon, on avait à bord tout ce qu'il fallait, mais une forte baisse de régime de la plupart. Que bon, ben là, ils commençaient à manquer ou de sucre, ou ils en avaient trop, ou j'en sais rien, moi. Mais alors, évidemment, quand ils sont arrivés de l'autre côté, super enchantés. Donc, ils avaient, ouais, je vais dire 16 ans, quoi, à l'époque. Donc, on arrive en Angleterre, et dans l'eau, il y a Timothée qui a vécu en Afrique du Sud. Donc, il parle très bien anglais. Et en plus, il est grand. On s'arrête dans un pub le soir, allez. Vous pouvez boire une bière, hein, parce que sinon, eux, c'est rien. On s'installe à la terrasse, nous, pareil comme en Belgique. Puis, on envoie Timothée chercher des boissons. Il ne pouvait pas avoir de boisson, parce que pas de boisson alcoolisée, parce qu'il n'était pas majeur. Pas de problème. On lui donne nos papiers. C'est pour nous, les boissons alcoolisées, pour Philippe et moi. C'était un cirque avec les Anglais. Mais un cirque, finalement, on a obtenu. Mais enfin, les Anglais, finalement, ils sont bien sur leurs cailloux. Heureusement. Pourquoi est-ce que les Français ont creusé un tunnel, hein? Pourquoi? Ils sont bien là-bas, les Anglais.
Philippe a rencontré d'autres amateurs de voile et d'autres skippers avertis, et je crois que ça doit être aux alentours de 98, ils ont fondé Force Douce, qui est bon, un petit jeu de mots sur le vent, évidemment, sur la force du vent. Ils ont repris les activités des passagers du vent, mais sans subside, sans aucune aide d'aucune sorte. Toujours en s'occupant de jeunes, la voile était une école. Ça a toujours été pour Philippe La voile est quand même son hobby et sa façon de vivre pour lui. Il utilisait ça comme outil pour faire rêver les jeunes, les emmener faire du bateau et aussi les structurer. Apprendre un minimum de discipline, de vivre en équipe, de savoir compter les uns sur les autres, de se respecter.
Terrible. Donc on est parti ici tous parce qu'on découvrait le bateau, hein. Ciré, harné, accroché dans le bateau et on est parti. Hein. Ça ressemblait à Walibi hein, pour aller jusque Dunkerque.
Et tout ça a fait que petit à petit, des gens ont fait appel à lui, des associations, des homes pour enfants. Tout ça s'est développé. Et à un moment donné, Philippe, qui était kiné de formation, a eu, il y a 5 ans maintenant, la possibilité de faire des études d'infirmier. Il en a profité pour se spécialiser dans la diabétologie.
Nicolas, diabétique de type 1, comme tous ceux qui ont participé à ce projet, à ce double rhum.
Le premier bateau de Force 12 qu'on achète, on va le chercher en Hollande. Il était à Wemelding, enfin bon, on va le chercher en Hollande, avec le propriétaire, mais qui en fait ne savait pas naviguer. Donc il me dit ah, j'ai un bateau en Hollande, enfin je vous le vends, j'utilise plus. On ouvre la partie en Hollande, on arrive là, il faisait gris, moche. Première chose à faire, ça devient une spécialité chez nous. Fallait que quelqu'un monte en tête de mât pour mettre un déflecteur radar, parce que dans cette zone, c'est obligatoire. Alors déjà il pleuvait, il faisait moche, il fallait monter en haut du mât pour aller mettre ce truc-là. Puis, dans le bateau, quand on a ouvert, on ne savait quasiment pas rentrer. C'est un bateau beaucoup plus petit que ça. Tellement il servait d'entrepôt, quoi, de stockage en matériel, ce bateau. Il y avait un bazar là-dedans. Donc, sous la pluie, commencer à essayer de trier, essayer de se faire de la place, puis essayer de démarrer le moteur. On ne savait même pas dans quel état il était. Donc, on avait, si tout allait bien, on avait entre 10 et 15 heures de navigation, si tout allait bien. Enfin bon, on ouvre la partie. Puis un petit vent qui sort, puis c'est bien. On sort même le speed, ce bateau. Puis on arrive aux écluses, qu'on appelle les écluses du Rhumpot, et qui donnent sur la mer. On passe ces écluses, et en fait, sur une demi-heure de temps, le vent chute, plus de vent. Et puis on entre dans le brouillard. Et donc on s'est tapé 10 heures de navigation au moteur, dans le brouillard. Mais il faut savoir que c'est des bateaux qui sont équipés d'aucune électronique, hein, les classes 8. Il n'y avait rien du tout dedans. Donc pas de GPS, pas, il n'y a rien. Donc on était parti vraiment là à l'estime. Et quand on regarde la carte de cette région-là, on traverse une forêt de bouées, puisqu'il y a des chenaux de navigation pour les gros bateaux et tout. Donc on s'est toujours dit... On finira par voir une bouée, passer suffisamment près, on va pointer, on saura où on est. Eh ben non, on a navigué pendant 10 heures sans jamais rien rencontrer. Et à un moment donné, si, quand même, dans la nuit, à un moment donné, ce qu'on appelle le château, la salle de contrôle, un gros bateau, un cargo, un truc comme ça, mais vraiment très près de nous, on ne l'a même pas entendu arriver dans le brouillard, ce qui est assez rare. Là, on s'est fait une petite frayeur.
Philippe m'a toujours expliqué qu'un adolescent qui est déjà en stade de rébellion, donc en train de se fabriquer, qui est confronté à cette maladie, a encore plus de difficultés à se structurer parce qu'il rencontre l'incompréhension des autres. Donc il est parfois un peu marginalisé, on ne comprend pas, on ne sait pas ce que c'est. Et la voile est un des moyens, il y en a certainement d'autres, pour faire en sorte que ces jeunes apprennent à se discipliner, à savoir gérer leur taux de sucre, mesurer régulièrement dans l'effort et à faire en sorte de ne pas être en état d'hypo ou d'hyperglycémie.
La voile, c'est une bonne école pour le diabète parce que ça apprend à se gérer. Il faut faire plus attention qu'à tard parce que bon, la faute n'est pas permise, mais donc ça, justement, ça nous motive à être bien, à bien gérer pour bien faire avancer le bateau parce que tout l'équipage compte sur nous.
Nicolas, qui est étudiant en médecine et vient de réussir ses examens.
C'est du sport et donc le sport, bah, c'est bien pour le diabète aussi. On apprend des choses pour dans la vie tous les jours, on apprend à gérer, mieux ressortir nos hypos, nos hyper. Enfin, c'est bien.
Oui, le second, c'était l'ancien Vogelpick.
C'était Vogelpick.
Et il traînait chez Aqualift. En petits morceaux. Voilà. Donc le propriétaire l'avait complètement démonté, tout traîné dans des boîtes. Ouais. Et puis, ouais, voilà, il a abandonné l'idée de le refaire.
Plein de projets, on voilà. Refait, on démonte.
Et donc, avec Philippe, rebelote à l'époque. Je me suis retrouvé dans le hangar avec des grandes boîtes en carton, avec un tas de bazar en vrac, parce que tout avait été démonté sur ce bateau. Et on a passé la moitié de l'hiver à remonter les pièces, quoi. Et finalement, il marchait bien aussi, ce bateau. Ouais, hein.
Et je crois que ça, c'est un des éléments fondamentaux de Philippe, qui, lui, parvient à fédérer les gens autour de lui, à rassembler des compétences autour de lui pour arriver à transmettre cette passion de la voile, tout en aidant des jeunes à se réinsérer et participer à une vie tout à fait normale dans l'effort.
Mon frère fait partie de l'association, il est handicapé et l'association a proposé aux frères et aux sœurs de participer.
La demoiselle, c'est Audrey.
C'est une semaine des jeunes, des frères et des sœurs, de personnes qui font partie de l'association, qui passent une semaine sur le bateau et alors on va en mer, on dort sur le bateau même et c'est génial. On partage nos expériences, on sent alors qu'on n'est pas tout seul vis-à-vis de nos frères et que finalement d'autres personnes vivent la même chose. Mais on s'amuse énormément, on en parle mais pas tout le temps et c'est vraiment génial.
Bon. Quand tu veux, Nico, tiens-le.
Et celui-ci, il avait trouvé une annonce. Un week-end, il dit « Ah, j'ai des vues sur un bateau, j'aimerais avoir un avis. Est-ce que vous savez venir ?» Et en fait, on s'est pointé à trois là-bas. Nous, lui comme moi, quand on a vu l'état général du bateau, on s'est dit « Écoute, faut pas le laisser partir, celui-là. » Et je crois qu'on l'a bien fait. Ce bateau était nickel.
La difficulté est pour des gens comme nous. Au début, j'avais toujours peur. Je leur demandais, est-ce que vous n'avez pas besoin de ceci, vous n'avez pas besoin de cela. Ils se sont carrément fichus de moi. Ils m'ont démontré par A plus B qu'au quotidien, à partir du moment où on peut gérer cette maladie, il n'y a aucun problème. Les efforts, on les supporte sans aucune difficulté. Preuve en est, ils ont ramené ce bateau, ce classe 40. Ils ont participé à son rapatriement et il n'y a eu aucun problème. Un nutritionniste avaient participé à l'élaboration de leur programme alimentaire. Ça démontre à souhait que la vie peut être tout à fait normale.
Tout est fiable, parce que il sert en compétition. Les planchers, à cause de ça, ils ne vont plus bien. Mais le matériel essentiel, la mâture, les voiles, les cordages, tout est sain, quoi. Le bateau est sain.
On apprend à vivre au quotidien dans un effort qui est quand même assez violent. On peut très bien vivre une vie de sportif sans aucun problème.
On peut vraiment aller dans du mauvais temps avec le bateau essaim. D'ailleurs, on l'a déjà fait plus d'une fois.
Prochaine traversée pour Force Douce Québec, Saint-Malo. Plus d'infos sur le www.forcedouce.org.